Bien sûr, sa sœur, sa maman, toute la famille est là. Et nous profitons de son passage et c'est lui qui va nous dispenser le bon conseil de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on lui laisse toute la place, que Dieu le bénisse. Voilà.
Bonjour à tous, à toutes. Heureux d'être là. On était réunis en famille hier avec une partie de la famille puisque une autre partie n'a pas pu venir, mais on était une trentaine à table. Et voilà, on se réunissait pour les 60 ans d'une de mes sœurs. Voilà, on bénit Dieu parce que, oui, c'est sa parole. Toutes les familles de la terre seront bénies et nous croyons que le Seigneur bénit. Vous bénit, bénit vos familles. Quand on pense qu'il y a quelques dizaines d'années, papa et maman étaient sur le point peut-être de se séparer, divorcer. Mais Dieu est intervenu, amen. Et quand l'évangile intervient, l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et on bénit Dieu parce que, bien voilà, ils ont su laisser le Saint-Esprit agir dans leur vie. Le Seigneur a transformé leur vie et ils ont su aussi transmettre un héritage qui ne peut pas se corrompre. Et sur les 7 enfants qu'ils ont fait, bien on est tous au Seigneur. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Et le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la bénédiction, elle est encore pour nos familles, pour vos familles, pour notre famille entière. Amen. Et nous voulons croire que même si, eh bien, peut-être vous avez des enfants, des petits-enfants qui ne sont pas encore, eh bien, au Seigneur, le Seigneur entend vos prières, entend nos prières et il agit et il sauve encore aujourd'hui. Amen. J'aimerais qu'on puisse partager ensemble, déjà peut-être la première diapositive, ces deux versets qui viennent de deux textes différents, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. Jésus est le libérateur. Il est venu pour libérer. Un autre texte aussi dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Alors je vais vous donner les références de ces versets. Ce sont des versets de l'Ancien Testament. Et on va méditer ensemble aujourd'hui, non pas pour s'engraisser au niveau de la parole de Dieu, mais on veut mettre en pratique. Et on croit qu'aujourd'hui, le Seigneur va délivrer, le Seigneur va agir dans nos vies. Peut-être qu'il y a des points bloquants, peut-être que nous sommes liés par certaines choses, peut-être que nous avons du souci. Eh bien, le Seigneur veut intervenir, il est le même. Il est présent au milieu de nous aujourd'hui. Alors le premier texte se trouve dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 23, verset 11. Vous pouvez le voir, il est affiché. Il est écrit « après lui », c'est-à-dire après une autre personne qui a été citée, la personne qui a été citée juste avant, les deux personnes qui ont été citées, ce sont des héros de David. Il y avait des vaillants hommes qui suivaient David et dans ces chapitres-là, il est question d'une trentaine, mais parmi ces 30, il y en a 3 qui sont particuliers. Et dans ces 3 particuliers, il y a Shammah. Vous le connaissez, Shammah ? Je n'étais pas à l'école avec lui, mais on va en discuter. La parole de Dieu révèle des choses. Après lui, Shammah, fils d'Agé. Nous avons quelques éléments sur cet homme, sa famille, d'Arar. Il était d'une région, Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Lehi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins. Shammah se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Nous allons méditer sur Shammah, mais aussi le lieu, Lehi. C'est un lieu qui est particulier. On va prendre un autre texte qui parle de Lehi. Et certainement, vous avez lu ce texte, il est question de Samson. Vous savez que Samson, à un moment, a mis en déroute 1000 Philistins. Il a tué 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Alors moi, je vous invite à réfléchir un petit peu. Le pauvre âne. Qui a pensé à cet âne ? Je ne sais pas de quoi il est mort. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il ne restait que sa mâchoire. Elle ne devait pas avoir de beauté, cette mâchoire. Elle ne devait pas avoir d'éclat. Pourtant, cette mâchoire a permis de tuer 1000 hommes. On réfléchit, ça nous fait penser à des choses qui, enfin, une personne notamment, et on a entendu ce matin le texte, c'est extraordinaire, l'Esprit de Dieu conduit toutes choses, cette mâchoire, elle devait traîner par terre, là. Hein, peut-être que les gens passaient à côté avec mépris, avec dégoût, hein. Mais cette mâchoire, eh bien, elle a permis une grande victoire. Alors, Juges 15, versets 9 à 19. Alors, les Philistins, tiens, c'est encore eux, par rapport au texte qu'on a lu, encore les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à Lehi. On est au même endroit, ce n'est pas la même époque. Hein, à une époque, on est au temps des rois, le roi David, et là, on est au temps des juges, juste avant. C'est le même endroit, il y a les mêmes ennemis. Les hommes de Juda dirent « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Ils répondirent « Nous sommes montés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a traités. » Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous que nous as-tu donc fait ?» Il leur répondit « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent « Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Ils lui répondirent « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. » Et ils le lièrent avec deux cordes neuves et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à Lehi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé, et le feu et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, deux monceaux, avec une mâchoire d'âme, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et l'on appela ce lieu Ramath-Lehi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis ?» Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Lehi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En-Hakkore, et elle existe encore aujourd'hui à Lehi. Amen. Alléluia. Lehi, un lieu au temps des juges, et puis un lieu eh bien, qu'on retrouve au temps des rois. Et je crois que nous sommes à Lehi aujourd'hui. Hein, et ce que Dieu a pu faire, eh bien, dans le temps, il peut le faire encore aujourd'hui. Nous avons un Dieu qui est puissant, qui est fort. Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Amen. Et même si l'ennemi, c'est toujours le même, eh bien, à Lehi, il s'est passé quelque chose. Et je crois que Lehi, c'est chez nous, c'est notre cœur. Hein, nous sommes tous là. Hein, et oui, Satan veut venir dans notre cœur, dans notre Lehi. Mais le Seigneur est là et il veut délivrer. Lehi, c'est un lieu qui est en Juda. Dans le texte du livre des Juges, on l'a lu, un lieu qui est en Juda. C'est-à-dire que, eh bien, il est là, il est présent après la conquête. Amen. Le peuple a conquis cela. Je pense que Caleb a été parmi ceux eh bien, qui ont conquis. Hein, c'est les tribus de Juda qui ont pris possession de cela, hein, et c'est quelque chose qui appartient, c'est un lieu qui appartient à l'Éternel. Amen. Ce matin, ce partage est surtout pour l'Église, pour les enfants de Dieu, mais l'Esprit de Dieu parle aussi peut-être à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus, mais je crois que ce matin, le Seigneur veut nous encourager tous. Il veut tous nous encourager. Parce qu'on s'aperçoit que l'ennemi veut toujours venir vers l'équi, veut toujours prendre possession, veut s'installer. Et l'ennemi de nos âmes, le diable, veut s'installer dans nos cœurs. Il met tout son pouvoir pour pouvoir s'installer. Et pourtant, ce lieu appartient à Judas. Nous avons donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ. Notre cœur appartient au Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu le dit, et je crois que c'est important de confesser la parole. Tous ceux qui l'ont reçue, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et dans les épîtres, Jean insiste, et nous le sommes. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Et même si parfois, l'ennemi veut venir dans nos cœurs, envahir, prendre possession, installer ses tentes dans notre cœur, parce que là, on le voit, ils avaient installé leurs tentes à l'équi. Ce lieu appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et je crois qu'il faut le constater. Il y avait... dans ce lieu, et ça on l'a vu dans le premier texte, il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Amen. Une pièce de terre remplie de lentilles. Il y a eu un travail qui a été fait. Il y a eu une terre qui a été labourée. Il y a eu de la semence qui a été mise là. Et les lentilles, elles ont commencé à pousser. Et là, les Philistins ont voulu voler, dérober. Les lentilles, ça fait penser à ce semeur qui sort et qui sème dans toutes sortes de terrains. Et on voit que dans les terrains, parfois il y a les oiseaux qui viennent et c'est le diable qui envoie toutes sortes de choses pour voler ce qui a été semé. Ce qui a été semé, c'est la semence, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et l'ennemi vient pour piétiner cela parce qu'il sait, l'ennemi, que la parole de Dieu est toute puissante. Par sa parole, il a tout créé. Faut être fou pour croire ça. À partir de rien, il a tout créé, que la lumière soit, et la lumière fut. Et tout ce qu'il a pu dire, ça s'est réalisé. La parole de Dieu est toute puissante. C'est la parole de Dieu qui transforme nos vies. C'est important, les gens autour de nous, le monde autour de nous, nous voient. On a entendu ce matin dans une expression que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Et les gens qui nous entourent, qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas Dieu, sont attirés par nos vies. Quand ils voient la lumière, ils sont attirés. Ils se demandent, mais comment ces gens font pour tenir dans les épreuves ? Comment ces gens n'ont pas le même langage que nous, le langage qui n'est pas grossier. Comment ces gens, par leur vie, témoignent, mais de qui témoignent-ils? Et donc ça attire, ça c'est le rôle du chrétien. Nous sommes témoins par notre comportement, par nos pensées, par nos paroles. Mais ce qui va transformer les vies après, c'est une décision, non pas de convention, mais de Dieu lui-même, c'est que Dieu a choisi de sauver les âmes par la folie de la prédication. Et mes frères et sœurs, il est temps de se mobiliser et de vivre une vie de témoin, c'est-à-dire une vie conforme à ce qui est Jésus, avec les sentiments qui étaient en Jésus, avec les paroles, l'amour qu'on peut rayonner, la bonté qu'on peut rayonner, la bienveillance qu'on peut rayonner autour des gens qui sont autour de nous. Et quand il nous interpelle, il dit « Mais comment ça se fait que tu es comme ça ?» viens écouter mon pasteur, il prêche l'évangile. Viens écouter. Viens, tu es malade, viens et on va prier pour toi. C'est ça l'évangile. Et Dieu a choisi de transformer les vies par la folie de la prédication. Ça vaut le coup d'inviter des gens à venir écouter l'évangile. Parce que là, l'Esprit de Dieu agit. C'est étonnant, non? On a un Dieu qui est étonnant. Parfois, peut-être qu'on met des limites, on dit « lui, il ne peut pas se convertir ». Il ne va pas comprendre le message. Mais ce n'est pas nous qui faisons. Des fois, on se demande, mais comment le Seigneur a pu transformer la vie de cette personne? Parce que nous avons un Dieu qui est étonnant. Un Dieu, il n'a pas notre manière de penser, de concevoir. Quand l'ennemi arrive, par exemple les Égyptiens, ils arrivaient pour oppresser le peuple d'Israël, ils étaient bloqués par la mer Rouge et on aurait pu dire, Seigneur, fais lever des guerriers et puis qu'ils se retournent contre les Égyptiens. Non, le Seigneur, il s'est occupé de leur roue. la roue des chars. Vous auriez fait ça, vous ? Hein ? Devant les murailles de Jéricho, vous auriez tourné, puis loué le Seigneur, vous ? Ben, le Seigneur agit comme ça. Hein ? Pour transformer de l'eau en vin, il manquait du vin. Qu'est-ce qu'on aurait fait ? Ben, on dit, Charles, t'aurais pas ton chéquier, là ? On va essayer d'aller voir à Carrefour Market à côté. On aurait fait ça. Le Seigneur, il dit, ben, remplissez d'eau ces cruches. Hein, c'est pas à nous de dire au Seigneur de comment il va faire. Nous, simplement, que nous soyons des témoins par notre comportement, par nos paroles, par nos vies, ambassadeurs de Christ, et puis simplement inviter les gens. Et le Seigneur agit hein, par la folie de la prédication. Hein, il y avait une pièce de terre remplie de lentilles. Et certainement, c'était le travail des enfants d'Israël, des enfants de Juda qui étaient là. Hein, et les Philistins sont venus. Et certainement, peut-être que vous avez travaillé pour semer des graines. Hein, je pense à nos enfants, nos petits-enfants. Moi, j'ai un gendre qui n'est pas au Seigneur. Et on prie tous les jours. Mais il y a de la semence qui est semée là. Et l'ennemi vient et il s'installe. Mais moi, je vois à la fin de l'histoire, c'est l'Éternel qui est vainqueur. Je pense à mes neveux, mes nièces. Hein, et vous pensez aussi peut-être à quelqu'un, hein, le Seigneur. Et vainqueur. Il y a un champ, il y a des lentilles. Hein, et Jésus a pu dire à ses disciples, quand il a interprété bien cette parabole du semeur, il a dit, le champ, c'est le monde. Amen. Et nous avons un travail qui est là, les lieux, hein, un travail dans les cœurs, le lieu, l'équipe. Parlons de l'ennemi. Parlons des ennemis. C'était toujours les mêmes là, hein, les Philistins. Hein, même si Goliath, il n'avait plus de tête, ben, il revenait chaque fois. Et on a toujours les mêmes ennemis qui sont là, hein, qui viennent nous oppresser, hein, qui viennent eh bien, essayer de nous intimider, hein, de nous faire douter de la parole de Dieu, douter de notre foi, hein, douter de comment Dieu nous voit. Mais pour qui il se prend, lui ? Il n'a pas le regard de Dieu. Le regard de Dieu sur ma vie, c'est un regard qui est rempli d'amour. Ce n'est pas le regard du diable. C'est un regard qui est rempli de compassion. Amen. Une femme jetée devant Jésus, prise en flagrant délit d'adultère, elle mérite d'être lapidée. Qu'est-ce que tu dis, toi ? Et le regard de Jésus. Le regard de Jésus. C'est ça, le regard. Ce n'est pas le regard de notre ennemi. Le premier ennemi, hein, le Philistin, c'est le voleur. Il ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Dans un des deux textes qu'on a lus, on voit eh bien, les enfants de Juda, ils ont discuté avec l'ennemi. Ils ont discuté avec les Philistins. On dit, mais pourquoi vous venez là ? Un Philistin, il dit, ben nous, celui qui nous gêne, c'est Samson. C'est Samson. Bon, on va faire un compromis. On va vous le livrer. Si vous discutez avec Satan, il va vous dire, hein, c'est pas toi qui me gêne, hein, c'est Jésus dans ta vie qui me gêne. C'est lui qu'il faut que tu me livres. Hein, c'est lui. Il ne faut pas discuter avec l'ennemi. Il faut discuter avec le Seigneur. Hein. Déjà, on n'a pas beaucoup de temps à mettre du temps à la prière avec lui, donc... Le peu de temps qu'on a, discutons pas avec l'ennemi, mais discutons avec le Seigneur. Il nous réconforte. Le diable, il est là pour eh bien, dérober, égorger et détruire. Et il ne fait pas de sentiment. Un autre ennemi aussi que nous avons, eh bien, c'est le monde. C'est le monde. Avec toutes ces convoitises qui sont là. Hein, il veut nous occuper, le monde. Hein, on a nos agendas, on a nos smartphones, on a tout ça. Il nous occupe, le monde nous occupe. Hein, et ça, c'est vraiment aussi un ennemi. Hein. Et puis aussi, il y a notre chair. Il y a notre chair. Hein. Dans 1 Jean 2,16, eh bien, Jean dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et il y a une lutte. Il y a une lutte. Il Il y a des combats qui sont là, qui sont à mener. Et je crois qu'il faut, c'est important de bien réaliser qui sont nos ennemis. Mon ennemi, c'est pas mon frère, ma sœur, c'est pas celui qui est en face de moi. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde. Et les trois ennemis que nous avons, c'est le diable, c'est le monde et c'est la chair. Le diable, le monde et la chair. Et c'est bien de pouvoir déterminer ces choses-là, parce que ça nous permet de savoir qui frapper et sur qui on doit être vainqueur, tout simplement. Le constat que l'on peut voir dans ces textes, c'est que le peuple d'Israël dans son entier, eh bien, est faible. Lorsque les Philistins se sont installés à Lehi, le peuple d'Israël est venu discuter avec eux et dit mais qu'est-ce que vous êtes venus faire? Nous sommes venus monter pour lier Samson. Et le texte nous dit après qu'ils le lièrent avec deux cordes neuves et le firent sortir du rocher. Ils sont venus lier leur juge, celui que Dieu avait choisi pour juger le peuple d'Israël. Ils sont venus juger leur juge, le lier et le livrer à l'ennemi. Dans le premier texte que nous avons lu, il est écrit que le peuple fuyait devant les Philistins. Et on constate que là, eh bien, il y a un état de faiblesse du peuple. Il y a un état de faiblesse. Et je crois que le Seigneur veut nous faire réaliser que nous sommes du côté du plus fort. La Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, pas par nos propres forces, mais en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et je crois qu'il faut réaliser ces choses-là. Satan est un menteur et il nous fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Il y a des choses qui sont évidentes. On a des progrès à faire, on a à grandir en maturité spirituelle, mais il y a des choses qui sont établies. Le Seigneur nous a rendus libres. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Mais nous avons un chemin à faire pour bien vivre cette liberté. L'image que je donne souvent quand je parle de cela, de la liberté en Christ, c'est que le peuple d'Israël, quand il était en Égypte, il était esclave. D'accord ? Mais lorsqu'il a traversé la mer, c'était un peuple comment ? Libre. Libre. Amen. Nous étions esclaves du péché. Et lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, la puissance de la croix s'est manifestée et nous sommes devenus libres en Jésus-Christ. Pour autant, il y avait un chemin à faire. De l'autre côté de la mer, c'était un peuple qui était libre, il n'y a pas de doute, mais ils n'étaient pas encore arrivés en Canaan et ils n'avaient pas conquis. Et donc, il y a eu toute une marche à faire. Et pourtant, même avec des moments difficiles, des moments où ils ont râlé, des moments où ils ont été un petit peu durs avec Moïse, eh bien, c'était quand même un peuple libre. Hein? Et parfois, eh bien, on a des attitudes, chacun de nous, et parfois c'est le peuple de Dieu, on a des attitudes qui ne sont pas conformes, mais nous sommes libres. Oui ou non? On veut le confesser? Et Dieu, dans sa grâce, nous pardonne et nous conduit. Hein, des fois, il envoie des cailles pour qu'on soit bien bourré dans notre estomac. Hein, mais dans sa fidélité, il envoie de la manne tous les jours. Hein, il est là, il est bon, il est miséricordieux. Hein, amen, alléluia. Mais il y a des vérités, nous sommes un peuple libre. Hein, il n'avait pas réalisé ces choses-là. Hein, le peuple fuyait devant les Philistins. Pourtant, ils étaient dans leur pays. Ils étaient en Juda, mais ils fuyaient. Il y avait leur travail qui était là, un champ de lentilles qui était là. Hein, mais eux, eh bien, ils sont partis. Ils sont partis. Réalisons. Ne laissons pas à l'ennemi eh bien, le travail qu'on a donné. Amen. Le travail qu'on a apporté à nos enfants. Le diable a volé des choses. eh bien, le Seigneur nous invite vraiment à réaliser qu'il veut eh bien, nous accompagner pour gagner et retrouver à nouveau ce que le diable a perdu. Amen. Alléluia. Le Seigneur veut faire de grandes choses dans nos vies. Amen. Alors regardons Samson. Il a été vainqueur, Samson. En fait, non, c'est l'Éternel qui a été vainqueur par Samson. Et le texte nous dit, alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. On a voulu lier Samson. On lui a mis des liens, des cordes neuves. Des cordes neuves. Mais l'Esprit de l'Éternel a saisi Samson. Amen. Alléluia. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Alléluia. Et nous avons cette puissance, l'Esprit de Dieu qui est là. Nous sommes eh bien, une église de Pentecôte et nous n'avons pas honte de cela. Hein, nous vivons encore des miracles encore aujourd'hui. Dernièrement, j'ai vécu un miracle dans une réunion de jeunesse. Hein, je peux lever le bras comme cela. Il y a quelque temps, eh bien, en faisant des travaux à la maison, je suis tombé d'un escabeau. Hein, et alors, bon, j'avais le tournevis planté dans la main, donc j'ai réussi à enlever le tournevis. Et puis seulement, j'avais mal à l'épaule pendant plusieurs mois et je ne pouvais plus lever le bras. C'était la limite, là. C'était la limite. J'avais trop mal, c'était bloqué. Et puis, je dis, bon, ça va tenir. Moi, je suis fort, moi. Hein, je sais résister à la douleur. Hein. Donc, je ne suis pas allé chez le médecin. Hein, donc, c'est aussi peut-être un manque de sagesse. Mais voilà, j'étais bloqué. Et puis, dernièrement, il y a 2 ou 3 semaines, peut-être, je ne sais plus, c'est ça, 2 ou 3 semaines, une réunion de jeunesse et le temps de louange. Temps de louange. Et il y avait un chant qui nous invitait à lever les bras comme ça. Et puis, j'étais en train de louer, j'avais le bras levé comme ça. Et puis, d'un seul coup, j'ai regardé et j'ai dit, mais... ça a été comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Et c'était impossible. Et le Seigneur m'a guéri. Amen. Alléluia. C'est encore aujourd'hui, nous avons un Dieu qui est puissant. Il y a la petite Julia aussi. La petite Julia, eh bien, elle ne supportait pas le lait et tout ce qui était à base de lait. La petite Julia, elle a 3 ans. Et puis, elle voyait tout le monde manger des desserts qui étaient quand même pas mal. Et elle n'avait pas le droit. Elle n'avait pas le droit. Alors, c'était assez difficile pour elle. Et elle ne comprenait pas. Et puis, un jour, elle discute avec sa maman et la mamie était là. Et Julia, elle dit, mais pourquoi je ne peux pas manger? Alors, la maman, elle dit, mais je t'explique encore. Mais tu ne peux pas manger ça parce que sinon, tu vas être malade. Et donc, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on te donne ça à la place. Et la petite Julia, elle dit, mais vous faites que de dire que Jésus guérit. Alors, oui, ben Jésus guérit. Eh ben alors, on prie et il va me guérir. Hein, 3 ans, la petite. Alors, la maman, elle dit, ben oui, si tu veux, on va prier. Nous allons prier. Et puis, à la fin, Julia, à la fin de la prière, Julia dit, « Bon, je peux avoir un yaourt maintenant ?» Et la maman dit, tu me dis que Jésus est guéri, on a prié, donne-moi un yaourt. » Alors la maman, elle a téléphoné à son mari quand même, elle n'a pas pris la responsabilité toute seule. Et puis elle dit, elle demande un yaourt, on a prié, elle a expliqué, elle dit, donne-lui. Et maintenant, Julia, eh bien, peut manger toutes les crèmes qu'elle veut. Amen. Alléluia. Parce que nous avons un Dieu qui guérit. Amen. Qui est tout puissant. L'Esprit de Dieu, c'est pas les hommes qui ont un fluide, hein, mais c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui agit dans le corps des personnes qui ont besoin, dans le cœur. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Amen. Et nous avons un Dieu qui est tout puissant. Cette semaine, nous avons une sœur qui est rentrée à l'hôpital et c'était très grave. Et mardi soir, eh bien, on s'est mis en prière parce qu'il était question d'amputer sa jambe, d'amputer son pied. Et le bout des doigts était noir déjà et il parlait de gangrène. Et on a prié vraiment avec force. Et vendredi après-midi, elle est sortie de l'hôpital. Encore jeudi après-midi, il disait, ben, on va l'envoyer à l'hôpital de Toulouse à Rangueil, parce que là, c'est critique. Et vendredi matin, ils ont dit à la sœur, ben, écoutez, on ne comprend pas, mais là, ça a tout revascularisé, tout circule, et nous avons un Dieu qui est grand. Amen. Alléluia. Alors je crois qu'il veut intervenir. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Samson a été connecté avec le ciel. C'est pourquoi c'est important d'avoir des temps intimes avec le Seigneur. Des temps intimes tous ensemble avec le Seigneur, mais des temps intimes avec le Seigneur dans sa présence. Parce que le Seigneur veut nous revêtir de son esprit. Et il veut manifester sa puissance. Là, il l'a manifesté. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu et ses liens tombèrent de ses mains. Amen. Étonnant. Une corde toute neuve, des cordes toutes neuves. Eh bien là, avec l'Esprit de Dieu, c'est devenu comme du lin hein, qui a brûlé. Hein, parce que nous avons un Dieu eh bien, qui est fort et qui répond aux besoins. Plus, après le combat, eh bien Samson avait soif. Hein, on l'a lu ensemble, il avait soif. Et le combat, il a dû être terrible. Hein, il a dû être terrible, mais il avait soif. Et ce qu'il a fait, la parole de Dieu le dit, il a invoqué l'Éternel. Et l'Éternel, il a fendu le rocher. Amen. Alléluia. Le rocher, ça rappelle, hein, Jésus-Christ, qui est notre rocher. Amen. Alléluia. Et le Seigneur veut nous faire vivre ces choses-là. Nous ne sommes pas dépourvus. Hein, c'est Samson, mais pour Shama aussi, il a vécu de belles choses. Ce vaillant homme de David, hein, fidèle, et ça nous montre, hein, ça nous invite à la fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ, la fidélité dans la foi. Le Seigneur eh bien, désire avoir ce contact de fidélité. Hein, et Shama eh bien, était un homme fidèle pour David. Shama, ça veut dire désolation. Les parents, quand ils ont choisi le prénom, vous rendez compte, hein, remarquez, Caleb, c'est pas mieux, hein, parce que ça veut dire chien. Hein, ça a donné Klebs après. Hein, Mais Shama, désolation. Hein, je ne sais pas comment vous appelez vos enfants, mais désolation. Mais ça veut dire aussi étonnement. Parce que le Seigneur de nos vies, eh bien, de nos vies qui sont désolées à cause du péché, eh bien, agit, et c'est étonnant, et il nous transforme. C'est ce qu'il a fait avec chacune de nos vies. Amen. Alléluia. Le fruit de l'Esprit qui est là. Quand on accepte Jésus, l'Esprit de Dieu vient en nous. Et il y a ce fruit qui grandit. Et c'est sûr qu'il faut être à la source hein, constamment pour que ce fruit grandisse. Mais c'est une réalité. Quand on laisse l'Esprit de Dieu agir dans nos vies, il nous transforme. Shama de désolation. Eh bien, il est devenu quelque chose de fort. D'ailleurs, son père, Agé, ça veut dire aussi, eh bien, dompteur de chevaux, mais aussi ça vient d'un mot qui veut dire flamboyant. Flamboyant. Nous avons un Père qui est dans les cieux, qui est flamboyant. Le prophète avait dit concernant Jésus, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, Père éternel. Et c'est vrai que Jésus, bien, avant de le connaître pour nous, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais la Bible nous dit, parce qu'il s'est révélé, dans nos vies maintenant, eh bien, qu'il est revêtu d'éclat et de magnificence. Nous avons un Père dans les cieux qui est revêtu d'éclat, de magnificence. Shama, eh bien voilà, peut-être de désolation. Eh bien la réalité, c'est ça, c'est que, eh bien, en Jésus, eh bien il y a cette lumière qui brille. Il vient d'où ? Il vient de Harar. Et Harar, ça veut dire qui demeure dans la montagne. Quand on monte dans la montagne, demeurer dans la montagne, être dans le contact avec le Seigneur, amen. Et là, il parle, il nous réconforte, on est bien. C'est quelque chose de précis, c'est pas de la religiosité, mais c'est vraiment un temps fort avec le Seigneur. Moi, je crois, eh bien, si Shama, eh bien, a eu la force et le courage de se tenir devant dans le champ de lentilles, c'est parce qu'il demeurait dans la montagne. Il demeurait près de son Père céleste. Hein. Shama, on le voit, eh bien, il a été ferme. Les Philistins venaient et ils ont envahi. Eh bien, lui, il s'est placé au milieu du champ de lentilles. Certainement, les Philistins, ils voulaient les lentilles. Hein. C'est bon les lentilles, avec de la saucisse de Toulouse. Hein, c'est bon, mais voilà, il s'est placé. Et je crois qu'il faut prendre des décisions, se placer. Seigneur, le diable, eh bien, il a volé mon gendre, Benjamin. Mais moi, je veux me placer devant dans le champ de lentilles. Amen. Je veux me placer là. Et je veux vraiment de position. Et c'est marqué, il l'a protégé. Il a protégé le champ de lentilles. Il a agi. Il a protégé, c'est être avec, hein, c'est couvrir, couvrir par nos prières, couvrir par nos exhortations et pas nos jugements. Aimer, aimer. Et il bâtit les Philistins. Amen. Quelque part, c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Le Seigneur, il s'est placé sur cette terre. Il s'est placé. Sur une croix, il a pris position. C'était une bataille, parce qu'à Gethsémané, ça a été dur, parce que son âme, eh bien, elle était triste jusqu'à la mort. Ça a été une bataille, mais il a pris position. Et je crois que dans tous nos combats, eh bien, ce sont des batailles. Il y a des pleurs, il y a des choses qui sont là. Mais le Seigneur nous invite à prendre position. Mon gendre, il est pour toi, Seigneur. Mes neveux, mes nièces, ils sont pour toi. Mes jeunes qui viennent à l'église, ils sont pour toi. Ça me fait penser à Océane. Océane, si vous voyez cette jeune fille, elle est couverte de tatouages. Et puis, elle consommait des choses qui ne sont pas permises et à un moment donné, eh bien, son corps était tellement faible, eh bien, qu'elle s'est retrouvée, eh bien, en soins intensifs à l'hôpital de Montauban. Et là, c'était terrible. Océane, eh bien, était homosexuelle et donc elle était aussi, eh bien, révoltée. Mais là, le Seigneur a permis qu'elle s'est retrouvée en soins intensifs. Et là, on a été la voir. On a manifesté l'amour de Christ pour elle. On a passé du temps avec elle. On a pleuré pour elle. Et à un moment donné, eh bien, elle a dit, eh bien, Seigneur, si tu me sors de là, parce qu'il ne restait que quelques jours de vie pour Océane, si tu me sors de là, eh bien, Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir. Et normalement, les médecins disaient aux parents, eh bien, voilà, si Océane, elle s'en sort, eh bien, il va falloir qu'elle parte au moins 6 mois dans une maison particulière parce que tout ce qu'elle a pu consommer là, eh bien, son corps, eh bien, est dépendant de ces choses-là. Donc, il va falloir qu'elle parte longtemps. Et, eh bien, au bout d'une semaine, Océane, elle était dehors de l'hôpital. Complètement guérie, complètement délivrée de toutes ces choses-là. Et Océane, eh bien, elle a pu témoigner lors de son baptême, eh bien voilà, le diable m'a menti concernant, eh bien, mon genre. Je suis pleinement une femme. Hein, et on a vu Océane qui s'habillait comme un garçon. Et comme elle est belle maintenant, Océane. Elle est belle. Alors, elle a des marques encore, ces tatouages qui sont là. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Et elle est remplie. Son cœur est rempli pour Dieu. C'est beau de voir ça. Tout ça parce que ses parents, ils ont pris position. Parce que l'Église avait pris position aussi, hein, au milieu du champ. Et Océane, eh bien, a été complètement délivrée. Ce que le diable avait volé, eh bien, on a été le rechercher. Et c'est ce que le Seigneur veut nous faire vivre. Hein. Et dans ces textes, c'est important de voir que c'est l'Éternel qui a opéré des grandes délivrances. Amen. C'est l'Éternel. Alléluia. C'est lui qui sauve. C'est lui qui guérit. Nous ne sommes simplement que des vecteurs, des serviteurs. C'est une grâce de pouvoir servir Dieu. C'est une grâce de pouvoir témoigner du Seigneur Jésus. Et le Seigneur nous donne des occasions. Hein, nous avons tous des occasions. Il suffit de demander et le Seigneur nous met. Mais c'est lui qui intervient. C'est lui qui opère de grandes délivrances. Amen. Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a mis en spectacle les dominations, les autorités, les princes de ce monde. Satan est vaincu. La Bible nous dit, et c'est Jésus qui le dit à ses disciples, j'ai vaincu le monde est vaincu. Et Paul pouvait dire, bien ma chair, elle est crucifiée en Jésus-Christ. Que nous puissions réfléchir à ces choses-là, que nous puissions travailler à notre vie de piété. C'est tellement important pour vaincre. Peut-être qu'il y a des luttes ce matin, peut-être qu'il y a des luttes avec des addictions, mais Jésus a vaincu toutes ces choses-là. Amen. Il a vaincu ces choses-là. On voit Paul qui le dit aux Corinthiens, il décrit les trois genres d'hommes qu'il peut y avoir. Il y a l'homme animal. Alors l'homme animal, c'est celui qui n'a pas Jésus dans son cœur. Donc lui, il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Il y a l'homme spirituel. C'est celui qui se tient dans la présence de Dieu. Et Dieu révèle des choses. Et l'homme spirituel, il est conduit par l'esprit. Et il y a l'homme charnel. Et Paul pouvait dire aux Corinthiens, ben, je n'ai pas pu vous donner beaucoup à manger, je vous ai donné que du lait parce que vous êtes charnels. Autrement dit, ils étaient conduits par leur chair. Ils étaient sauvés, les Corinthiens. Mais il y avait quand même des choses qui n'étaient pas terribles dans l'Église quand même. Il y avait des choses qui n'étaient pas terribles. Ils avaient tous les dons, mais il y avait des choses qui n'étaient pas terribles. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient conduits par leur chair et non pas conduits par l'Esprit. Le Seigneur veut un peuple conduit par son esprit, des vies conduites par l'esprit. Et même dans les moments difficiles, après, eh bien, on sait comment réagir. On sait agir, avoir ce réflexe. Eh bien, Seigneur, qu'est-ce que tu aurais fait, toi ? Qu'est-ce que tu aurais dit ? Et le Seigneur, quand on est dans cette disposition de cœur, eh bien, il nous conduit. Il nous conduit et on agit comme le Seigneur. Voilà, c'était les quelques pensées que j'avais à partager avec vous. Le Seigneur, eh bien, opère de grandes délivrances. N'oublie pas, il n'a pas changé, le Seigneur Jésus-Christ. Alors soyons prêts à prendre position dans ce qui nous appartient. Judas appartenait au peuple de Dieu. Ce champ de lentilles appartenait au peuple de Dieu. Hein, et le Seigneur, quand on prend position, hein, rempli de l'Esprit, il nous rend plus que vainqueurs. Amen. Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Je te rends grâce, Seigneur, parce que ta parole est là pour nous exhorter. Ta parole est là pour renouveler nos forces. Ta parole, c'est une lumière sur notre sentier. Seigneur, et nous voulons te bénir parce que ta parole, elle est vivante par ton esprit. Ce matin, je veux prier vraiment pour peut-être ceux et celles qui sont découragés dans des épreuves, Seigneur, où l'ennemi vient et reprend encore des places qui ne lui appartiennent pas dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur mon Dieu, merci parce que ce matin tu nous encourages à prendre position. Seigneur, je prie, Seigneur, afin que nous ne fuyions pas devant l'ennemi, Seigneur mon Dieu. Je prie, Seigneur, que nous puissions, eh bien, nous tenir près de toi, nous laisser remplir de ton esprit, Seigneur, et agir conformément à ta parole, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu réconfortes ce matin. Seigneur, tu rappelles les promesses que tu as mises dans le cœur de certains, de certaines. Seigneur, tu accomplis, Seigneur, tes promesses. Et nous voulons te bénir. Bénis, Seigneur, mes frères et sœurs ici à Istres. Renouvelle les forces, bénis mon frère Joël, son épouse, sa famille, tu renouvelles les forces et que vraiment ensemble, avec ton église, ils puissent se lever. Seigneur, ne pas fuir devant l'ennemi, mais prendre position dans le champ, Seigneur mon Dieu. Détruire, Seigneur mon roi, l'ennemi, comme Samson a pu eh bien, détruire avec peut-être quelque chose qui paraissait étonnant avec cette mâchoire, Seigneur mon Dieu. Mais Seigneur, nous voyons, Seigneur, que c'est toi qui agis. Tu as manifesté la puissance de notre Dieu à la croix. Et nous voulons, Seigneur, vraiment réaliser cela et vivre la pleine victoire. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Amen. Amen.